Catherine Chalier, vous êtes philosophe et vous avez aussi étudié les larmes dans la tradition rabbinique, dans la tradition judaïque, les larmes aussi dans les psaumes, les larmes qui sont un peu comme le pendant de la joie, des pleurs de joie. Comment expliquer cette émotivité que nous recevons à partir des psaumes et qui nous fait voir qui nous sommes et en même temps ne pas désespérer?
Je pense que la palette émotive des psaumes, elle est très grande. Elle va depuis la joie jusqu'au désespoir. Donc, ça me semble très important d'introduire la présence de l'émotion. Parce que très souvent, les philosophes ont tendance à penser que l'émotion, c'est ce qui nous trouble dans la quête de la connaissance et dans la quête de la vérité. Or, je pense que l'émotion, c'est pas simplement comme ça, se laisser aller à de l'irrationnel. Parfois, l'émotion voit plus clair en nous que notre intelligence discursive et elle nous devance en quelque sorte. En particulier, lorsqu'à la lecture de certains psaumes, justement, se lève en nous une joie furtive, on a l'impression que le texte s'adresse à quelque chose de très très profond en nous, et qu'il vient le chercher, qu'il vient le déloger, qu'il vient le faire vivre. C'est-à-dire que ce sont toujours les mots, M-O-T-S, qui sont comme ce qui nous aide à faire lever en nous ce qui est encore très en sommeil. Pour la question des pleurs, il y a une formule de Lévinas qui est très profonde. Il dit que c'est comme quand un être tombe en humanité, c'est-à-dire que ce sont quelque chose qui révèle une dimension de l'humain qu'il n'a pas toujours perçue lui-même. Donc ce tombe en humanité, c'est en particulier par rapport à celui qui veut être dur, qui veut ne pas montrer justement ses larmes, car comme si c'était de la faiblesse, alors qu'ici, elles peuvent être pensées comme justement un signe très profond d'humanité. Mais dans les commentaires bibliques, les larmes sont aussi un langage anthropopathique, c'est-à-dire prêté à Dieu, et donc Dieu pleure, il se retire pour pleurer, et donc loin d'avoir une image d'un Dieu pur acte, pure puissance, comme une certaine théologie marquée par la philosophie grecque a tendance à le penser, il y a aussi cette idée d'un Dieu justement qui est touché par ce qui advient aux hommes, qui est affecté par ce qui advient aux hommes, qui est aussi marqué par une certaine impuissance à les sauver directement. Et donc ce thème des larmes de Dieu, c'est un terme que l'on trouve corrélativement à une théologie de la non-puissance de Dieu.
Et une théologie où Dieu se retire, comme dans la création.
Oui, comme dans la création, où Dieu se retire, c'est aussi aux êtres humains de jouer leur part maintenant, d'être co-créateurs. Ce n'est pas à Dieu d'intervenir directement. Ce thème du retrait de Dieu dans la création, c'est un thème extrêmement développé, en particulier dans la mystique juive, dire l'idée que ce retrait est une nécessité. Et que ce retrait, non seulement c'est une nécessité, mais c'est aussi un acte d'amour, ce qui pourrait sembler contradictoire, mais pas du tout, parce que, en particulier, ce sont les chassidim qui développent ce thème-là, Dieu doit se retirer pour faire place au monde, pour faire place à la création. Et s'il ne cachait pas sa présence, sa lumière, son éclat, nous serions aussitôt anéantis, et donc nous ne pourrions pas exister. Et donc c'est un thème, le tzimtzum, le retrait de Dieu, soit le retrait, soit le cachement, ce qui n'est pas exactement la même chose, parce que le cachement, ça veut dire aussi qu'il est là, mais que nous ne pouvons pas le percevoir. Mais quoi qu'il en soit de l'interprétation, ce retrait est une nécessité, car nous ne pourrions pas vivre dans sa pleine lumière, nous serions aussitôt anéantis par l'éclat de son infinitude et de sa lumière. Et donc, cela peut nous sembler, le retrait ou le cachement, comme une attitude de rigueur, de sévérité, mais en fait, disent les chassidim, c'est une attitude d'amour. Et c'est justement par amour pour nous, pour que nous puissions exister, pour que nous puissions grandir, et du sein de ce retrait ou du sein de ce cachement, il nous appelle.
Vous avez évoqué la lumière, lumière de la création, lumière de Dieu, et vous avez aussi étudié la nuit et le jour. Et vous avez étudié dans votre livre « Nuit, jour », le paradoxe, mais aussi l'alliance de la nuit et du jour.
Oui, parce que souvent on oppose la nuit et le jour, et puis il y a des discours souvent très négatifs sur la nuit qui est associé à toutes sortes de phénomènes psychiques, spirituels, intellectuels qui peuvent être pensés comme négatifs. Par exemple, les lumières au sens de la philosophie des lumières au XVIIIe siècle, tout ce qui était nuit était du côté de l'ignorance et de ce qui nous empêche en effet de connaître. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces lumières devaient chasser la nuit. Or, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est qu'il y a une alliance entre la nuit et le jour. La nuit prépare le jour. Et ce qui est intéressant dans la tradition juive, c'est que le jour, en fait, commence le soir. Et donc, il faut traverser la nuit et aller au jour. Et donc, les deux sont liés. Et la nuit n'est pas, justement, simplement quelque chose dont il faut à tout prix sortir parce que c'est complètement négatif, mais elle est aussi promesse de jour. Et c'est un petit peu ça que j'ai essayé d'examiner dans le livre, même à des extrêmes parfois très profonds. Par exemple, lorsque l'on parle, et c'est un thème que l'on voit dans beaucoup de mystiques chrétiennes, en particulier la Noche Oscura de San Juan de la Cruz, mais on voit ça dans beaucoup de mystiques, c'est-à-dire les moments, la nuit de la foi, c'est-à-dire le moment où justement cette adresse à Dieu semble folle et se heurter à rien du tout. Et en même temps, qu'est-ce qui donne la force de persévérer? Ça, on trouve ça dans beaucoup de trajets spirituels et mystiques des êtres humains. Je crois que vouloir faire l'économie de la nuit, de tout ce qui est associé à la nuit, soit en termes intellectuels, soit en termes moraux, soit en termes etc., c'est se tromper. C'est aussi la nuit qui va nous permettre de voir.
Quelle est la présence des anges? Alors, Catherine Chalier, la présence des anges auprès des hommes.
Alors, il ne faut pas tomber dans l'imaginaire. Dans la Bible, ils sont très présents, comme vous le savez. Donc, l'ange, c'est tout ce qui relie le visible à l'invisible. Donc, tout ce qui nous sort de la pure immanence, pourrait-on dire, et nous laisse entrevoir autre chose qui nous surprend. L'ange est un visiteur qui surprend et qui nous appelle vers une réalité qui semble, à notre perception, tout à fait invisible. Pour dire les choses dans un langage qui soit le plus loin possible d'un imaginaire trop facile, c'est pas une apparition comme ça. Par exemple, lorsque Lévinas parle du visage humain, il dit « le visage humain, ce n'est pas une réalité visible. Si je commence à décrire votre visage, je ne perçois pas le visage au sens de Lévinas. » Je suis en train de décrire un phénomène, or ça n'a rien à voir avec le visage. Mais je peux être saisi par le visage de mon prochain parce que quand je le perçois, j'entends une parole qui me dit « tu ne tueras pas ». C'est-à-dire « tu veilleras sur ton prochain, tu feras tout pour qu'il vive ». C'est-à-dire que le visage, il est dans la trace de l'infini et il vient me déloger de ma somnolence ou de mon activité et me demander quelque chose. Je trouve que la façon dont Lévinas parle du visage, que j'ai vraiment très 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 brièvement résumé ici, c'est exactement la même façon dont on peut parler des anges dans le texte biblique, c'est-à-dire ce moment d'une apparition qui peut sembler sensible, visible, mais qui en fait est d'un autre ordre et qui est de l'ordre de l'invisible. Cet invisible, il se manifeste, ça c'est biblique, il se manifeste par une parole. Or, quand Lévinas dit « le visage parle, le visage m'appelle, le visage me fait responsable », bien entendu, la personne qui porte ce visage n'a pas conscience de cela. Elle ne le sait pas, mais par elle, cette parole vient me toucher, vient m'appeler, vient, pour employer un terme biblique, vient m'élire. C'est une parole d'élection. Thank you.